Bienvenue à tous, vous écoutez Je suis Lou, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Je suis Lou vous emmène au cœur de la forêt boréale, sur les montagnes et les sentiers de Charlevoix, pour partager des conversations inspirantes avec des athlètes chevronnés. Écouter des conseils d'experts, mais surtout s'enthousiasmer pour les anecdotes les plus folles que seuls les ultras peuvent nous faire vivre. Je suis Clémentine Ferraton, et aujourd'hui je vous propose une discussion autour de l'éco-responsabilité et des mesures mises en place depuis la création de l'événement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis Lou, le balado de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Aujourd'hui, nous vous proposons un échange autour du thème de l'éco-responsabilité. Alors, depuis ses débuts, l'équipe de l'UTHC a souhaité mettre de l'avant une approche respectueuse de l'environnement dans son mode de gestion de course. Et il y a eu un gros travail qui a été fait en coulisses et qui est bien évidemment toujours en cours pour que l'ensemble des événements proposés soient le plus éco-responsable possible. Donc, cela nous semblait donc important de mettre de l'avant ces réalisations, mais surtout d'avoir une discussion autour du thème de l'éco-responsabilité, à la fois dans la façon d'organiser des événements sportifs, mais aussi en tant que coureur. Alors, nous avons aujourd'hui trois invités pour aborder ce sujet. Ma première invitée sera notre experte. Elle est chargée de projet en développement durable, en charge des événements éco-responsables et santé environnementale, si je ne me trompe pas, pour le Conseil québécois des événements éco-responsables. C'est Karel Trottier. Bonjour Karel.
Bonjour.
Notre deuxième invité depuis de nombreuses années bénévole pour l'UTHC, c'est aussi un coureur d'ultra qui a cœur l'éco-responsabilité en tant que coureur, mais aussi dans sa vie au quotidien, c'est Thomas Duhamel. Salut Thomas.
Salut.
Et enfin, notre dernière invitée est la directrice générale des événements Arikana, Marlène Côté. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Alors, merci à vous trois d'être présents aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit en introduction, l'équipe de l'UTHC a voulu, dès la création de l'événement, donc on remonte, je pense, en 2011 à Marlène, si je ne me trompe pas, mettre de l'avant une approche respectueuse de l'environnement. Mais il y a quand même eu un virage qui a été initié en 2017. Cette année-là, en 2017, le thème de la course était d'ailleurs le développement durable et on avait comme président d'honneur Stephen Guilbeault, qui est notre actuel ministre canadien de l'environnement et du changement climatique et qui était à l'époque directeur général principal d'Équiterre. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous propose pour démarrer, c'est qu'on remonte justement peut-être en 2017 ou même un petit peu avant, tu nous diras Marlène, pour qu'on regarde qu'est-ce qui a été fait au tout début pour mettre en place les premières actions et qu'on ait un petit historique. Donc, je te laisse la parole en premier à toi, Marlène. Je te laisse démarrer.
Oui, merci, avec plaisir. Donc, comme tu le dis, je suis arrivée chez les événements Arikana en 2017, au printemps 2017 plus précisément. Puis, auparavant, je travaillais au Centre de développement, au Centre de l'environnement à Québec, chez Accès Transport Viable, qui est une organisation qui fait la promotion des transports collectifs et actifs. Donc, j'arrivais avec ce bagage-là de quelques années dans le monde de l'éco-responsabilité. Puis, en arrivant chez Événements Arikana, un de mes premiers réflexes a été de faire un diagnostic des mesures éco-environnementales de l'organisation. Et comme l'Ultra Trail Arikana, qui était notre seul événement à l'époque, chaque année choisit un thème et essaie de développer ce thème-là pendant une année pour sensibiliser les coureurs, la communauté sur un sujet en particulier et pour aussi poser des gestes et des actions cohérentes en fonction de ce thème-là à chaque année. J'ai proposé en 2017 que le thème soit, comme tu le dis tout à l'heure, l'environnement, l'éco-responsabilité. Donc, toute l'année 2017 a tourné autour de ce thème-là, ce qui nous a permis de faire un diagnostic, de commencer par regarder qu'est-ce qu'on faisait déjà de bien et de moins bien, d'évaluer où on en était. Et ça nous a permis de prendre connaissance à ce moment-là qu'on faisait déjà plein de belles choses dans notre organisation, mais de façon pas vraiment structuré ou organisé ou planifié, mais que c'était déjà dans les valeurs de l'organisation et même dans les valeurs, je dirais, de la communauté de coureurs en santé de manière générale, d'essayer de préserver l'environnement le plus possible puis de laisser le moins de traces possible après avoir réalisé un événement. Donc, on a fait un diagnostic comme ça, on s'est associé avec Équiterre, comme tu le dis, pour brainstormer, réfléchir sur les prochaines actions à poser, pour donner du sens à ce qu'on faisait, puis de la crédibilité aussi à ce qu'on faisait. Puis, ça nous a amené, en 2017, à adopter une politique de développement durable. C'était très symbolique, là, c'est très court, c'est une petite politique là qui affirme, dans le fond, notre intention d'être une organisation éco-responsable, puis d'instaurer ces valeurs-là au sein de notre organisation chaque fois qu'on prend des décisions. Donc ça a été une action symbolique quand même importante parce qu'on se mettait le bras dans l'engrenage. Là, à partir de ce moment-là, là, on s'oblige à faire des efforts, puis on s'oblige à rendre des comptes aussi aux gens qui participent à notre événement et maintenant à nos événements.
Est-ce que, Marlene, je te coupe, est-ce qu'à l'époque, il y avait d'autres événements qui avaient aussi commencé à mettre des choses en place avec qui vous aviez pu échanger ou vous étiez un peu les précurseurs?
Il y avait déjà plusieurs choses qui se faisaient dans différents événements. Par exemple, en 2016, l'année avant que j'arrive, les verres avaient déjà été abolis sur les ravitaux dans plusieurs événements de trail. Donc, il y avait déjà comme des actions significatives là, qui avaient été posées dans les années précédentes, puis qui avaient vraiment bien percolé. Donc, il y avait d'autres événements aussi là, qui avaient dans le monde du trail, de la communauté de coureurs en sentier. Mais c'est ça, nous on voulait essayer de structurer ça, puis d'aller un peu plus loin, puis de réfléchir à comment on peut essayer d'être le plus éco-responsable possible. C'était quoi les prochaines étapes à poser. Donc c'est ce qu'on a fait en 2017, là. Mettre la table, se positionner, ne pas avoir peur de faire des erreurs, de se tromper, puis d'être imparfait. C'est un peu ça la ligne directrice aussi depuis les 6 dernières années, c'est de se dire on fait de notre mieux, il y a des choses qu'on contrôle moins, il y a des choses qu'on peut pas faire, qu'on va faire dans le futur, mais c'est de toujours tendre vers une amélioration continue de nos actions éco-responsables.
Et est-ce que Thomas était déjà dans le groupe de réflexion à cette époque-là? Enfin, je sais pas si c'était un groupe, un comité, comment vous aviez organisé ça?
Il y avait une feuille extérieure. Je sais pas en quelle année on a sorti ça, Marlene.
Ben, en fait, c'est ça, avec ce processus-là, moi, j'avais envie de... À ce moment-là, j'étais la seule employée là, des événements Ricanas, une toute petite organisation là, qui était, avant que j'arrive, 100% bénévole. Donc, j'étais la première employée permanente, salariée de l'organisation.
Recoupe parce que ça, je voulais le préciser au début, mais en fait, on parle beaucoup des événements Ricanas. Mais il faut savoir que c'est différent. En fait, l'UTHC, c'est l'événement phare, en fait, organisé par les événements Ricanas. Mais il y a d'autres événements que vous organisez, le FestiTrail, le Trans-Charlevoix, le demi-marathon Lille aux Côtes. Donc, il y a d'autres événements qui sont organisés, mais nous, on va focusser sur...
Ce sont ajoutés.
Ouais, voilà, qui sont ajoutés par la suite.
C'est ça. C'est ça. Mais en 2017, il y avait seulement l'Ultra Trail Aricana, puis donc j'étais la première employée. Et j'ai voulu, dans la stratégie qu'on s'était donnée, c'était aussi de monter un comité puis de s'entourer de personnes compétentes pour nous aider, parce que on sentait qu'on n'allait pas être capable de faire ça seul. Puis avec toutes les tâches qu'on a à penser et à faire dans le cadre d'un événement, ça nous prend des, j'appelle ça moi, des chiens de garde. C'est peut-être parce que j'ai travaillé en politique aussi, mais c'est pas des chiens de garde de la démocratie, mais des chiens de garde de l'éco-responsabilité de notre organisation. Donc, ça nous a amené à mettre en place un comité qui était composé à ce moment-là de Thomas Duhamel et Marie-Philippe Ouellette, qui s'est joint aussi par la suite. Donc, de se joindre de personnes motivées, compétentes pour nous challenger, nous aider, nous accompagner, puis nous ramener toujours à l'ordre pour avancer là, dans les actions qu'on s'est dit qu'on allait poser. Fait que Thomas est arrivé au cours de l'année 2017-2018 à ce moment-là.
Ouais, ça doit être ça.
Ouais, c'est ça. Puis ça a été vraiment génial. Il est resté avec nous quelques années. Tu pourras en parler peut-être, Thomas, pour nous aider, c'est ça, à aller un petit peu plus loin, vraiment avoir un plan d'action, là, puis...
Mais c'est ça, l'idée c'était de réfléchir, c'était d'avoir une approche structurée, je pense que Marlene l'a bien dit, c'était d'évaluer ce qui était fait et puis de voir ce qui pouvait être fait de manière simple, l'idée d'avoir un effort à consentir. Donc il y avait des choses qui étaient très simples à faire, il y avait des choses qui étaient plus compliquées, qui allaient peut-être prendre plus de temps, puis c'était au moins de structurer l'approche. Donc on avait défini des grandes thématiques, on avait défini des sujets, puis après on avait réfléchi à comment on pouvait le faire, puis là... Un des premiers gros travaux sur lesquels on s'était penché, c'était la gestion des matières résiduelles, qui est un gros morceau à attaquer. Et puis, de bien le réfléchir, ça a permis d'éviter les premiers couacs sur site, même si la première année, ça n'a pas été forcément facile. Mais au moins, on a travaillé fort sur le sujet. Puis, honnêtement, c'était un apprentissage. Moi qui suis pas du tout du domaine, ça a été un apprentissage énorme. Puis j'ai trouvé ça cool, même de mettre les mains dans les poubelles pendant 48 heures, j'ai trouvé ça fun. Donc on s'est quand même amusé malgré tout. Et puis on a bien appris. Puis ce qui est ressorti, c'était qu'on pouvait faire des choses qui étaient très bonnes en avec peu d'implication finalement, juste de pas avoir peur de mettre les mains dans les poubelles. C'était les seules contraintes.
J'ai une petite question, si je peux me permettre, parce que je trouve ça super intéressant d'impliquer justement des coureurs dans la démarche. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit souvent, nous, dans nos accompagnements avec des événements. Donc, je me demandais comment est-ce que ça s'est inscrit, Thomas, comment est-ce que tu t'es mis à t'impliquer dans cette démarche-là? Comment est-ce que tu t'es mis à être sur ce comité-là d'éco-responsabilité?
Je pense que c'est des discussions qu'on a eues avec Marlène. On se connaît très bien, et puis la communauté de trail, je suis quand même assez impliqué dedans, donc par des discussions, du bouche à oreille, une communication. Je pense que Marlène, tu as dû peut-être m'envoyer un message, ou c'est moi qui t'ai envoyé un message, je ne sais plus trop, mais c'est des discussions assez fluides qui nous amènent à aborder ces sujets-là. Puis c'est quelque chose que moi j'essaye d'avoir dans mon quotidien. Je pense qu'en tant que coureur, on a une responsabilité là-dedans aussi, pas juste les organisations. Il ne faut pas tout faire reposer par l'organisation. Et, et puis, dans une démarche de courir, moi j'avais couru en 2016 le 125. Je voulais m'impliquer en tant que bénévole pour avoir un petit peu la vision globale de l'événement. Donc, avec des valeurs personnelles et puis la volonté d'être dans le bénévolat pour l'organisation, les chemins se sont croisés à cet endroit-là, quoi.
C'est super, très intéressant.
Puis toi,
bravo pour ton implication.
Puis toi, merci. Thomas, en plus, tu as ta casquette aussi, je ne sais pas si ça a pu aider, mais d'ingénieur qui peut faire que tu as aidé aussi peut-être à structurer, je ne sais pas, là, je dis ça sans t'en avoir parlé avant, là, mais...
Non, mais c'est pour ça que ça a pris la forme de fichier
voilà,
Excel.
Oui, voilà, c'est ça, d'où c'est un fichier Excel qui m'a fait penser à ça, en fait.
C'est ma tête est un fichier Excel.
Puis vous avez commencé avec la gestion des matières résiduelles. Est-ce que, Karel, toi, c'est des choses que tu vois dans les événements? Est-ce que c'est le premier aspect ou le premier domaine auquel on touche quand on veut commencer à mettre une démarche éco-responsable en place?
Effectivement, souvent, c'est la première chose qu'on fait parce que c'est souvent ce que les participants voient en premier lieu sur un événement. Donc, c'est facile d'avoir l'air... d'être un peu meilleur de ce côté-là. Donc, c'est sûr que la gestion des matières résiduelles en événementiel, c'est tout un défi, autant pour des événements sportifs, autant pour des événements en trail, autant pour des gros festivals de musique, par exemple, extérieurs. Même pour des événements intérieurs, c'est tout un défi. Donc, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Puis, c'est effectivement la première chose que les gens touchent. Puis moi, comme c'est mon dada, on peut dire, c'est un peu une passion, là, mettre les mains dans les poubelles, je trouve ça super intéressant. Ben c'est sûr que moi, avec mes clients, je mets beaucoup ça de l'avant également, là, donc j'aime bien les aider là-dedans.
Puis c'est vrai qu'on a l'impression que c'est l'aspect le plus facile, hein, parce que c'est peut-être d'installer un centre de tri et ça, puis Marlène a fait non, parce que je sais qu'au final, c'est pas si facile que ça. Vous voulez nous en parler un petit peu, justement, des défis que vous avez eus, puis que tout n'a pas fonctionné, en fait, comme on le pensait?
Non, c'est ça, effectivement. Je me suis rendu compte que c'était vraiment tout un défi. En fait, en toute honnêteté, on le maîtrise pas à 100% encore aujourd'hui. 6 ans plus tard, c'est encore un challenge, puis c'est pas encore maîtrisé à 100%. Mais en 2023, je pense que là, on va vraiment l'avoir. J'ai espoir parce que là, les astres se sont alignés. Je m'explique. Les premières années, on était encore un petit événement, moins de 1000 personnes ou autour de 1000 personnes sur une journée. Ou presque un petit peu plus qu'une journée, donc c'était quand même plus facile à maîtriser là, la gestion des matières résiduelles. C'était pas si complexe, c'était oui un gros 24 heures, mais sur un gros site principal, mais avec le développement de l'événement, en ayant de plus en plus de gens qui participent, de plus en plus de distances qui sont rajoutées avec les années, on est maintenant un événement sur 3 jours, incluant des nuits où est-ce qu'il y a de la gestion de matières résiduelles à faire, on a vécu des défis. Je pense qu'en 2019, ça a été la première année où l'événement se tenait sur 3 jours, où là, il y avait vraiment des activités le samedi et le dimanche. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que faire de la gestion des matières résiduelles, par exemple, au beau milieu de la nuit, là, c'était chaotique, là. Puis on l'avait comme pas anticipé, puis on gérait ça seulement avec des bénévoles à cette époque-là. Puis on avait complètement perdu le contrôle de nos poubelles pendant la nuit, finalement, là, avec les coureurs qui arrivaient à 2-3 heures du matin. Il y avait aucun intérêt à trier leurs poubelles, puis on n'avait plus de bénévoles pour gérer ça. Donc, on a perdu notre compost en 2019. C'était un gâchis total le dimanche, mais on avait quand même fait des efforts. On avait essayé, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc cette année-là, notre compost s'est pas rendu ne s'est pas rendu à la bonne place, c'est sûr et certain. Je pense qu'on a essayé de pallier à certaines choses le lendemain en retriant certains compartiments le dimanche, mais ça n'a pas été le succès qui se comptait. Donc, ça nous a amené par la suite à se dire, ben, un, ça va nous prendre des ressources rémunérées, des gens qui sont compétents pour faire ça, qui sont disponibles, parce que c'est un gros mandat quand même, là, sur plusieurs heures. Notre événement, il est long, tu sais, sur de nombreuses heures. C'est quand même une lourde tâche pour des bénévoles. Donc, nous autres, on a décidé de rémunérer, d'engager carrément des gens qui sont formés pour ça, puis qui savent bien comment le faire, puis qui peuvent aussi sensibiliser par le fait même les participants qui viennent jeter leurs déchets. Puis on a aussi, bon c'est ça. Donc, puis on a aussi structuré les choses pour qu'il y ait seulement un centre de tri. Donc, on a tout concentré à un seul endroit. Donc, maintenant, la contrainte que nos participants ont sur notre site principal, c'est que il y a presque pas de poubelles sur le site. Ils doivent se diriger vers un centre de tri où là, tout est trié par les gens qu'on a engagés. Ça permet de garder un meilleur contrôle de nos matières résiduelles. Mais c'est ça. Mais avec les années, ça a quand même été un challenge parce que dans Charlevoix-Est, jusqu'à cette année, il n'y avait pas de compost municipal. La municipalité, la MRC de Charlevoix-Est n'est pas habituée de recevoir des gros événements. Donc, il n'y avait pas assez de poubelles, il n'y avait pas assez de bacs de recyclage et de compost pour notre événement. Donc, l'événement continue à grossir, mais finalement, la région n'avait pas la capacité de fournir les outils dont on avait besoin pour réaliser la gestion des matières résiduelles comme on aurait voulu le faire. Donc, ça a été des défis à chaque année d'avoir les bacs en quantité suffisante, de trouver une entreprise privée qui peut faire le transport de notre compost vers une autre entreprise privée qui, elle, fait du compost et qui a des critères bien spécifiques qui sont différents du compost municipal dans la gestion du compost. Donc, il y a des années où est-ce que notre compost a été refusé, même s'il avait été très bien trié, à notre grande déception. Mais, tu sais, avec le temps, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, pendant ce temps-là, même si des fois le compost ne se rendait pas ultimement à l'endroit voulu, au moins, on commençait de plus en plus à maîtriser notre système à l'intérieur de notre organisation. Tout ce qu'on contrôlait, finalement, on s'est mis à le faire de mieux en mieux, puis à bien le faire. Donc ça, je pense que c'est un succès. Puis maintenant, on est rendu à l'étape de là, on veut vraiment que ça se rende à bonne place, puis que ça soit composté, parce que sinon, on a l'impression de faire tout ça dans le beurre, là. Mais au final, on essaie de voir le positif, puis de se dire, on a quand même réussi à mettre en place des processus qui fonctionnent maintenant. Les coureurs sont sensibilisés, maintenant sont informés, ils savent. Donc il y a beaucoup de travail quand même qui a été fait. Là, on s'approche d'un succès optimal dans la gestion de matières résiduelles, on espère, en 2023.
Est-ce que vous avez vu, parce que l'événement a grossi depuis ces dernières années, mais est-ce que vous avez vu aussi une réduction des déchets? C'est difficile à voir parce que j'imagine qu'il y a plus de coureurs, donc il y a plus de déchets, mais est-ce que proportionnellement, tu as l'impression que vous avez aussi réussi à réduire vos déchets qui sont pas du tout, qu'on peut pas composter ou trier, en fait?
C'est une excellente question parce que, en fait, la première chose qu'on devrait faire, c'est essayer de réduire les déchets pour en avoir moins à trier par la suite, là. Donc, ça, c'est vraiment notre force, là, je te dirais, là. C'est ce qu'on a essayé de faire le plus avec Thomas, entre autres. C'est de voir partout où est-ce qu'on produit des items, des objets, jusqu'où on peut aller dans la réduction. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Par exemple, pour réduire la quantité de vaisselle qu'on utilise dans le repas d'après-course ou même sur les ravitaillements. Donc, après avoir enlevé les verres au ravito, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi aboli toute la vaisselle au ravitaillement. Parce que sur une course d'ultra-trail, les gens vont aussi manger des vrais repas, là, des vrais... Donc, nous, maintenant, on oblige les coureurs à avoir leur gamelle, leur bol pour manger. Donc, on ne fournit plus de vaisselle au ravitaillement. Donc, on essaie de réduire à différents endroits comme ça. On n'imprime plus des documents, des papiers, des fichiers. On demande aux gens maintenant de les prendre en photo ou on les envoie de façon électronique pour essayer d'éviter l'impression que la production de matériel. On donne pas de t-shirts à nos coureurs. On essaie d'investir plutôt dans l'expérience des participants plutôt que dans les goodies un peu inutiles qui vont traîner dans le fond d'un tiroir, là. Donc ça, on a fait des gros efforts à ce niveau-là, puis on continue encore cette année à essayer de voir comment on peut continuer à améliorer ça.
Il y a le travail sur les symboles aussi, l'histoire de l'arbre à médaille.
Oui.
C'est rien parce que la médaille, ça pourrait être quelque chose qui produit pas forcément, mais c'est un symbole, la médaille. Puis je pense que quand tu viens en tant que coureur, tu finis ta course, puis au lieu de prendre ta médaille, puis la mettre autour de ton cou, puis dire « oupi », puis je la ramène chez moi, ben, je vais la déposer sur l'arbre à médaille, je fais ma photo pour faire mon post Instagram, puis ramasser des likes, là. Mais après, je vais la poser, puis je suis sensibilisé par cette action-là. Puis je pense que le fait d'avoir, de travailler sur des symboles comme ça, le fait de travailler sur les ravitaillements, l'année d'après où j'avais été très impliqué sur la gestion des matières résiduelles au site du Mont Grand Fond, j'avais accompagné Benoît qui est le responsable des ravitaux pour faire le tour avec lui, puis être impliqué au niveau des ravitaillements, et il y a énormément de travail de sensibilisation au niveau des coureurs quand ils passent sur les ravitaux, mais aussi de ceux qui gèrent les ravitaillements, parce que c'est des bénévoles qui arrivent dans l'organisation puis qui n'ont pas forcément lu la charte d'éco-responsabilité d'Aricana, qui n'ont pas forcément... Puis c'est pas de leur faute, c'est une super idée de venir passer du temps puis investir du temps personnel dans l'événement. Donc c'était de sensibiliser les personnes des ravitaux puis les coureurs quand ils passaient. Puis il y a tout un travail de gamification aussi, de leur dire bah, c'est le fun en fait d'essayer de travailler sur la gestion des matières résiduelles, de baisser les quantités de déchets. Donc il y a tout un travail d'éducation, de partage, puis c'est pas forcément fait en disant t'es un mauvais garçon, t'es une mauvaise fille, tu produis des déchets. C'est non, c'est d'essayer de le faire dans la bonne humeur. Puis moi je trouve que c'est une énorme force de Marlene puis les équipes de travailler dans le beau partage plutôt que d'être dans la sanction entre guillemets, de dire on n'est pas bon, on fait des déchets quoi.
Ouais. Ben oui, ben Thomas, il souligne des choses super intéressantes parce qu'effectivement, à un moment donné, on se questionnait sur la fameuse médaille là, d'après-course, à quel point elle est essentielle ou non. Souvent, elle traîne justement quelque part dans notre maison, puis elle est complètement inutile. Mais en même temps, c'est un symbole fort, il y a des gens qui y tiennent. Donc, à un moment donné, nous autres, on s'est dit, ben arrêtons d'essayer de penser noir ou blanc, médaille ou pas de médaille, puis essayons de voir si on peut pas trouver un compromis ou faire une transition tranquillement, pas vite, avec les années. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est proposer aux gens d'échanger leur médaille contre un rabais à la boutique, contre un item qui leur plaît, qu'ils vont vraiment porter puis qu'ils vont vraiment aimer, ou de carrément la donner sans rien. Là, donc, on a un arbre à médaille où les gens peuvent laisser leur médaille, puis elle va être réutilisée l'année suivante, puisque c'est des médailles en bois qui peuvent être ressablées et réutilisées. Donc, on a commencé à instaurer ce système-là qui permet comme de faire une transition. Ceux qui la veulent vraiment, qui sont pas encore, pour qui c'est vraiment important d'avoir leur médaille, puis qui sont pas prêts à la délaisser, vont l'avoir. Mais de plus en plus, les gens laissent leur médaille à l'arrivée dans un bac ou sur l'arbre à médaille, ou vont l'échanger contre un rabais à la boutique. Fait que tranquillement, pas vite, il y a une transition qui se fait qu'on essaie de voir les choses un peu, c'est ça, ni noir ni blanc, c'est de tester des choses aussi, de se dire, ben peut-être qu'on sera pas parfait l'année 1 ou l'année 2 même, mais au moins on va commencer à essayer des choses, puis à changer tranquillement nos habitudes.
Puis les gens évoluent, donc, c'est ça, les gens vont être après de plus en plus habitués aussi. Peut-être qu'au début, ils voulaient vraiment la médaille, mais finalement après, tu sais, ils vont comprendre tout ça. Toi, Thomas, qui évolue pas mal dans la communauté de trail, comment c'est perçu justement par les coureurs, peut-être plus en arrière, comment c'était perçu justement de voir, ben, je vais devoir avoir plus de matériel parce qu'il faut que j'apporte mon bol, il faut que j'apporte mon gobelet, faut que j'apporte mes couverts, je peux plus avoir le droit aux médailles, j'ai pas de chandail. Comment c'est perçu?
Je pense que tout le monde a son avis. Après, dans la communauté de trail, je pense qu'on est à peu près tous sensibles à l'environnement. On évolue le milieu de l'environnement trail, c'est la nature. Donc, je veux dire, ça serait un non-sens de la dégrader, mais d'avoir cette pratique-là. Après, il y a des gens qui viennent de partout, qui ont tous leur sensibilité, qui ont tous leur vie, etc. Donc, on ne peut pas exiger de tout le monde d'avoir le même niveau d'implication là-dedans, mais je pense qu'à peu près tout le monde est sensible à ça. Après, et peut-être des gens qui viennent d'autres sports, qui arrivent dans le monde du trail, qui n'ont pas les habitudes, c'est même pas qu'ils ont juste pas la conscience de ça, et je pense que c'est aussi une des valeurs d'Arikana, c'est de dire, on va aussi vous proposer des choses et puis vous partager comment notre vision de la course en sentier. Et puis, ça fait effet boule de neige parce qu'en tant que coureur, on est impliqué là-dessus. Puis, on va partager ça à nos amis, à nos familles. Puis, c'est comme ça que c'est l'effet vertueux de toutes les implications.
Oui, il y a un gros volet sensibilisation finalement aussi. Hein. Ce n'est pas juste trier des déchets, encore une fois. Puis, je pense même, Marline, tu disais, c'est aussi sensibiliser les coureurs, les bénévoles, mais aussi vos partenaires, des fois, qui eux ne sont pas encore à votre niveau et puis qui ne se rendent pas compte qu'ils vont produire beaucoup de déchets ou qu'ils vont vous en emmener alors que vous en avez trié plein.
C'est ça, le défi, c'est qu'un événement, ça a lieu une fois par année. T'sais. Puis, c'est pas comme une organisation qui œuvre avec des services au quotidien, là, puis qui peut se dire « Hey, demain, on va rajouter ça » ou « Demain, on va s'améliorer, on va faire ça comme ça ». Là, il y a un an qui se passe. Là. Puis, en un an, il y a des acteurs qui changent. C'est pas les mêmes bénévoles, c'est peut-être pas même les mêmes personnes dans l'équipe. Il y a plein de paramètres qui vont changer dans l'événement. Les horaires vont changer. Le matériel sera pas tout à fait le même. En tout cas, il y a comme plein de choses qui changent. Fait que c'est quand même un gros challenge parce qu'une fois que le show est commencé, c'est comme dur de revenir en arrière pour changer la planif. Donc des fois il y a des petites affaires qu'on échappe ou qu'on arrive moins bien à contrôler parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs impliqués. Comme tu le disais par exemple, on a une trentaine de partenaires dont des exposants qui se déplacent sur le site, qui viennent vendre des produits ou présenter des produits. Puis c'est ça. Donc la première année, je pense que le message n'était pas bien rendu jusque à ces exposants-là, puis il y en a qui étaient arrivés avec des verres en styromousse pour servir leur café, ce qui nous a vraiment choqués. Puis on essaie de pallier à la situation sur place, mais il était un petit peu trop tard. Donc là, après ça, on a instauré des nouvelles mesures pour dire, là, il faut mieux informer, sensibiliser nos partenaires, nos exposants qui viennent, on leur fait remplir un formulaire. Mais même là, des fois, il y a des challenges parce que le formulaire qu'ils vont remplir, dans lequel ils vont cocher leurs actions éco-environnementales. Des fois, la personne qui remplit le formulaire, c'est pas la personne qui vient sur place. C'est... Puis des fois, le formulaire a été signé 3 mois avant l'événement, mais en 3 mois, ils vont l'avoir oublié, là, ce qu'ils ont signé. Puis... Donc, il y a toujours... Donc, c'est toujours de recommuniquer. C'est un travail constant, finalement. Là. Il faut jamais rien prendre pour acquis. C'est un peu ça qu'on a appris avec l'expérience.
Et puis, il faut arriver à lâcher prise aussi, ce que je comprends, parce que ça peut pas être parfait. Puis... on s'améliore d'année en année, puis on apprend à chaque fois de ses erreurs. Karel, toi, quand tu avec les événements avec lesquels tu travailles, c'est quoi tu penses qui peut avoir le plus d'impact en fait en termes d'action éco-environnementale en fait?
On vient de terminer en fait une grosse étude d'analyse de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, ça vient vraiment regarder du berceau à la tombe en fait un élément. Donc on a fait une étude d'analyse de cycle de vie sur 10 événements. Donc sur l'entièreté d'un événement, montage, démontage, lors de l'événement, on regardait différents paramètres, donc l'hébergement des personnes, le volet virtuel, l'alimentation, la gestion des matières résiduelles, les articles promotionnels, justement. Et selon cette étude-là, en fait, on a vraiment ressorti que le transport autant sur site, le transport des employés, des bénévoles, mais beaucoup le transport des participants, donc dans ce cas-ci des coureurs, c'est ce qui a le plus gros impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce que c'était là-dessus que notre étude s'est focalisée, parce qu'en analyse de cycle de vie, on peut vraiment regarder d'autres sphères, comme par exemple l'utilisation des terres, la contamination des écosystèmes. Nous, on s'est vraiment basé sur les émissions de gaz à effet de serre, donc j'ai ressorti des petits chiffres si ça vous intéresse. En fait, la catégorie transport, donc tout transport confondu, là, on inclut aussi le transport de l'approvisionnement, donc toutes les fournisseurs qui emmenaient leurs éléments sur le site de l'événement, en fait, contribuaient en moyenne à 80% des émissions totales de gaz à effet de serre d'un événement. Et dans ces 80%-là, 84% étaient reliés au transport des participants. Donc, c'est quand même majeur et souvent, c'est très difficile en tant qu'événement de faire des efforts justement pour réduire les transports. Donc là, on essaie de vraiment développer des outils de l'aide pour réduire cette quantité de transport-là parce que c'est facile. De la gestion des matières résiduelles, justement, Marlène, tu le disais un petit peu, vous avez un certain contrôle d'une certaine manière sur ce que vous offrez. Donc, c'est relativement simple ensuite de ça, de voir, OK, on a besoin de mettre recyclage, déchets, compost sur le site, gestion des matières dangereuses, etc. Mais quand vient la question du transport, c'est beaucoup plus difficile d'imposer un transport aux participants participants, surtout pour des courses en région comme ça, là, donc c'est encore, ça donne une couche supplémentaire de difficulté. Donc, je ne sais pas si vous, vous faites quelque chose au niveau des transports, justement, des participants pour réduire cet impact-là.
Ben, t'as raison, c'est comme une grande contradiction. Ben, on peut pas tenir un événement sans avoir un impact environnemental. Mmh. C'est presque impossible, à moins que ça soit au centre-ville de Montréal, que tout le monde se déplace à pied, puis que donc là, de faire un événement en région qui attire des gens de partout dans le monde et de partout au Québec, c'est sûr que ça génère beaucoup de déplacements. C'est notre grande frustration parce que c'est pas facilement résoluble. En fait, c'est irrésoluble. Mais par contre, il y a des choses qu'on essaie de faire là où on a un petit peu de contrôle, justement, puis là où est-ce qu'on peut avoir un impact. Fait qu'on essaie de voir où est-ce que on peut avoir une amélioration. Donc, par exemple, nous autres, on a instauré tout un système de navettes entre le centre-ville de la Malbaie et le Mont-Grandfond. C'est quand même 15-20 kilomètres que les gens doivent faire pour se rendre au Mont-Grandfond, le site principal. Et là, il y a un système de navettes en continu que les gens peuvent prendre pour avoir à ne pas utiliser leur voiture pour ce déplacement-là, qu'ils font souvent 2-3 fois dans la même fin de semaine. Donc, le système de navettes est rendu maintenant très efficace là toute la fin de semaine. Ensuite, ce qu'on fait aussi, on invite les gens à faire du covoiturage pour se déplacer dans la région. C'est quelque chose qui est relativement difficile puis qui fonctionne plus ou moins bien, je dirais. Là, on l'a essayé à chaque année, mais ça se compte sur les doigts des mains. Là, je pense que les personnes qui vont vraiment faire du covoiturage avec des inconnus, la plupart des gens viennent déjà en famille ou entre amis, puis ont des horaires un peu disparates, donc c'est compliqué là, de gérer du covoiturage, de ce que j'ai compris. Par contre, nous autres, on organise un bus, on a créé l'Ultrabus à Ricana. C'est un autobus qui part de Montréal, qui arrête à Québec, qui se rend à la Malbaie. Pour ceux qui sont en auto-solo ou en couple, puis qui veulent éviter le déplacement en voiture, peuvent partager le déplacement avec d'autres coureurs. Puis nous, on prend tout en charge, on leur offre aussi un hébergement clé en main. Ensuite, ils sont à un hôtel qui est où la navette dont je parlais tout à l'heure passe régulièrement. Donc, c'est super facile pour eux après ça de se déplacer d'un site à un autre. Donc, c'est vraiment une formule qui est clé en main, qui gagne en popularité puis qu'on veut faire connaître de plus en plus parce que là, on fait des gains. Là, on diminue le nombre de voitures qui se déplacent vers la Malbaie pendant l'événement. On pourrait pas le faire pour tout le monde, mais pour ces... ces 30-40 personnes-là, ben c'est déjà ça de gagner, c'est ça qu'on se dit. Là.
Exactement. Chaque petit geste compte, puis chaque petite victoire de même est importante. Donc, si c'est 30 personnes, c'est 30 voitures de moins, c'est quand même non négligeable.
Ben c'est ça, exactement. Puis l'autre chose qu'on a déjà fait aussi, parce qu'il y a une année où on a eu un accompagnement de la Coop de l'Arbre, qui est un organisme à but non lucratif de la région de Charlevoix, qui accompagnent les organisations dans leur démarche éco-environnementale. On avait travaillé avec eux en 2018, je pense, pour faire un diagnostic encore plus élaboré que celui qu'on avait fait à l'interne. Puis avec eux, on avait fait une plantation d'arbres pour compenser nos gaz à effet de serre en 2018-2019. C'est quelque chose qui a été abandonné avec la COVID ensuite, là, pour différentes raisons, mais c'est quelque chose qu'on veut ramener. Est-ce qu'on pourrait pas refaire des plantations d'arbres? Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Ce qu'on a compris, c'est que c'est quand même pas évident là, de gérer ça aussi. Là, c'est pas toutes les organisations qui en font. Puis donc, on est là-dedans en ce moment, à réfléchir à quel point on va ramener ça pour compenser les gaz à effet de serre qui ont été créés pendant l'événement. Ça fait partie des choses qu'on évalue en ce moment.
La compensation devient de plus en plus fréquente, en fait, dans les pratiques événementielles, justement, parce qu'on peut, comme tu l'as si bien dit, on peut pas arriver à un net zéro en termes d'émissions de gaz à effet de serre en événementiel, parce que le but, c'est de rassembler des gens. Donc, veux pas, le but, c'est de faire du transport. Donc, c'est sûr qu'on n'arrive jamais à un impact négatif ou neutre. Donc, à ce moment-là, la compensation carbone peut venir justement contrecarrer ces émissions-là. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis en place dans un événement pour aider aussi l'organisation à récolter des fonds pour permettre cette compensation-là, parce qu'on s'entend que c'est pas gratuit faire la compensation carbone. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être mis en place, comme des dons volontaires. C'est justement la médaille. Donc, le fait de ne pas produire cette médaille-là, ben cet argent-là pourrait être mis vers un fonds vert qui vous permet de faire la compensation. Mais je pense que là aussi, la communication, la sensibilisation des personnes peut peut aider beaucoup à vous permettre de rassembler une certaine cagnotte d'argent pour faire la compensation.
Karel, en fait, j'ai une question pour Karel et pour toi, Marilyn. Oui. Est-ce qu'on serait capable de définir le poids en émissions carbone de chaque participant?
Ben, c'est drôle que tu demandes ça parce que la semaine dernière, on a suivi une formation, pour utiliser un outil de calcul des gaz à effet de serre. Donc on est dans ce processus-là d'être capable de mesurer la quantité de gaz à effet de serre qu'on produit dans le cadre de notre événement. Karel, tu pourras peut-être en parler parce que je pense que tu connais bien l'outil.
Puis, de Destination Québec Cité ou un autre?
C'est l'outil qui a été présenté par le Centre des événements éco-responsables. Vous donnez des formations des fois, là. Il y a un outil qui a été développé, puis il y a des formations qui se donnent pour apprendre à l'utiliser. Mais ça, la façon dont ça fonctionne, il faut que les gens remplissent un formulaire, en fait. On peut pas juste prendre les codes postaux des participants parce que on sait pas qui covoiture, qui vient avec quel type de véhicule, un petit véhicule, un gros véhicule, etc. Donc les gens doivent remplir un formulaire et ensuite on est capable de faire en proportion du nombre de personnes qui ont répondu au formulaire versus le nombre de personnes réelles qui participent à l'événement, on est capable de calculer environ combien de gaz à effet de serre a produit l'événement. Donc là on est dans cette démarche là justement de se dire ben peut-être qu'à la remise des dossards on pourrait avoir un sondage, sonder les gens puis le mesurer cette année puis savoir combien on a produit.
Oui, puis sur une base volontaire, en fait, moi, je me mets dans la démarche de « je m'inscris à la course », mais peut-être que sur une démarche volontaire de calculer mon propre impact et peut-être de moi-même compenser mon impact en allant payer, je ne sais pas combien ça fait, mais 20, 30, 50, 100 dollars, je ne sais pas, de plus, pour compenser mes émissions de gaz à effet de serre. Peut-être que de ramener ça sur l'événement, mais aussi sur chacun des coureurs, ça peut être... au moins, on se rend compte de ce qu'on fait quand on se déplace pour aller courir 125 km dans la boue dans Charlevoix. Quoi.
Exactement. Marlène, le calculateur que tu parles, en fait, calcule simplement les transports, justement, là, donc l'impact que ça génère de se déplacer d'un point A à Z. Il y a des calculateurs qui existent en événementiel qui incluent aussi plein d'autres choses comme l'alimentation, l'hébergement. C'est le calculateur de Destination Québec Cité que je parle en fait parce qu'ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça, puis j'ai eu la chance de le tester la semaine dernière, donc c'est pour ça que j'avais frais dans ma mémoire. Mais oui, il y a possibilité de le faire, puis il y a beaucoup d'événements qui le font, des bilans de gaz à effet de serre qu'on appelle. Donc moi, j'aime bien faire des bilans de gaz à effet de serre qui séparent les grandes catégories. Là. Donc si par exemple, vous faites juste les participants, ben on met tous les participants dans un bilan pour voir, OK, le bilan des participants, c'est ça. En moyenne, les gens émettent X nombre de tonnes de gaz à effet de serre, ce qui représente peut-être 1 ou 2 $ en termes de compensation. Puis ensuite de ça, vous faites vos calculs à l'interne pour tout le déplacement que vous faites avec l'équipe, etc. Puis ensuite de ça, les bénévoles. Et ça permet de vous mettre beaucoup plus facilement des objectifs à long terme pour essayer de réduire chacune des émissions dans chacune de ces catégories-là. Mais ça se fait de plus en plus, les bilans de gaz à effet de serre. Et c'est une exigence de la norme du Bureau de normalisation du Québec en gestion responsable d'événements. Donc, elle a un long nom. Mais c'est un des points qui peuvent être accumulés pour cette norme-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'événements qui le font aussi. Mais oui, ce serait tout à fait pertinent. Peut-être que l'étude de 2018 que vous avez faite avec la firme, vous pourriez comparer justement les chiffres également d'une année à l'autre. Ce serait intéressant.
Puis moi, ce que je trouve intéressant, parce que là, on parle de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a quelque chose qui est difficilement mesurable, c'est tout le volet sensibilisation que vous faites. Puis ça a un impact qui est quand même fort, parce que c'est sûr qu'on se fait déplacer des gens, mais en même temps, vous allez sûrement sensibiliser des gens qui n'avaient pas justement conscience de l'impact qu'ils pouvaient avoir grâce à toute la communication que vous allez faire à la fois le jour de l'événement, mais même autour de l'événement. Puis il y a des actions très concrètes comme ce que vous allez mettre en place, qui est déjà en place, mais que vous allez mieux structurer. Hein, je pense cette année, Marlène, c'est le bazar en fait, le troc de matériel.
Oui, en fait, ça fait quelques années qu'on l'organise là. C'est un bazar de matériel usagé de course. Donc, ce qu'on permet de faire depuis quelques années, c'est aux gens d'amener des choses qu'ils n'utilisent plus ou qu'ils n'ont jamais utilisées, là, des t-shirts, des sacs d'hydratation. On a plein d'objets, hein, souvent les coureurs, là, que finalement nous fait pas très bien, c'est trop grand, trop petit, ou qu'on s'est fait donner, qui sont encore en très bon état. Puis, on sait que c'est quand même aussi dispendieux de s'équiper en matériel et vêtements de sport. Donc, on a instauré ce bazar-là. Puis là, cette année, on veut l'amener à un autre niveau pour que ça que les gens l'entendent plus parler, puis que ça soit plus structuré, puis encore plus efficace, parce que on a eu, c'est une bonne idée qui n'a pas fait 100% de son chemin jusqu'à maintenant. Donc là, ce qu'on va faire cette année, c'est que là, on va vraiment attitrer des bénévoles qui vont s'occuper de gérer ça pendant toute la fin de semaine. Ça va être à côté de notre boutique, puis ça va, donc ça va être un vrai kiosque, ça va être visible sur le site. Ça va être géré, structuré. Alors qu'avant, c'était plutôt un endroit sur le site où c'était en auto-géré. Là, les gens pouvaient laisser des choses fouiller dans le bac, mais finalement, c'était pas assez visible sur le site, donc ça n'a pas eu les résultats aussi importants qu'on aurait voulu. Donc là, cette année, on va mettre un petit peu plus d'énergie, un peu plus de temps là-dessus. Puis je pense que ça peut avoir un impact vraiment intéressant pour éviter. Éviter l'achat inutile de matériel.
Ouais, puis le seconde main, il a quand même, on en parle de plus en plus pour les vêtements, j'ai l'impression de tous les jours, mais pour les équipements sportifs ou les vêtements sportifs, c'est pas encore super populaire, hein, je pense. Hein. Donc ça a besoin de publicité. Oui, Thomas. Non.
Mais il y a le bazar aussi, mais il y a le fait de faire réparer ses affaires. Puis ça, on le voit pas. Alors, en tout cas, c'est pas encore, je pense, sur un des événements des événements Aricana. Mais il y a le fameux van Patagonia là, qui se promenait. Je sais pas si ça existe encore, mais il se promenait à travers l'Amérique du Nord. Puis tu pouvais aller n'importe où faire réparer tes vêtements Patagonia. Puis je pense qu'il prenait même les autres marques. Mais c'est quelque chose que on prend pas assez l'habitude. Moi, je sais que c'est. Moi, j'ai été commandité il y a quelques années, puis j'avais du stock de linge. Maintenant, j'en ai moins, puis je me mets à réparer le stock que je me suis fait donner il y a quelques années. Mais j'ai un ami à moi qui m'a orienté ici à Québec. Il y a une boutique qui s'appelle les Ateliers Forêt, qui sont dans Limoilou, et ils réparent tout le stock. Ils sont experts dans la réparation du stock technique, de linge technique, matériel technique. Donc, que ce soit du matériel d'alpinisme, que ce soit du matériel de course en sentier. Et en fait, on peut étirer la vie de nos équipements, mais pas à l'infini, parce que tout a une fin de vie, mais vraiment l'allonger. Et puis dans le choix des souliers, ça c'est quelque chose que moi personnellement ça me touche beaucoup. C'est quand tu choisis une paire de souliers, c'est que ça soit pas fait pour faire 400 km, parce que 400 km pour un coureur qui court 100-150 km par semaine, qui est le volume des personnes qui courent et qui visent le top 10 de toutes les courses au Québec et dans le monde, un minimum, ben en fait c'est 3 semaines de course quoi. Enfin, tu fais 3 semaines, tu jettes une paire de souliers aux poubelles, ça marche pas, c'est pas possible. Et en fait il faut que des souliers ça puisse faire 800, 1000, 1500. Un ami René là, il fait 2000 km sur chacune de ses paires de souliers, puis ben c'est correct en fait, il consomme moins, donc il renouvelle moins, il pollue moins, puis c'est dans son implication qui fait tout ça.
Oui, parce qu'on parlait avec Thomas, on avait parlé de comment limiter mon impact en tant que coureur, puis moi j'avais tout de suite l'idée comment limiter mon impact sur le milieu autour de moi, le milieu naturel on va dire, mais en fait tu peux le limiter surtout pas mal dans ta consommation de matériel et puis aussi peut-être dans ta façon de courir. Hein. Thomas, toi t'es un fervent un fervent promoteur, ça se dit ça, de courir pour aller travailler, des commutes, là, comme vous dites.
Oui.
Ouais, mais même pour tout, pour aller faire l'épicerie, autant que faire se peut, là. Je veux dire, je peux pas transporter des briques de lait puis des couches de mes jeunes enfants sur mon dos tout le temps. Mais par exemple, j'ai deux jeunes enfants, bah, je les mets dans un chariot, puis je m'en vais au maxi qui est à 1 km de la maison, puis je vais faire l'épicerie tant que faire se peut. C'est sûr que c'est pas moi qui ramène le gros stock, c'est ma conjointe qui va avec l'auto, mais quand je peux, j'y vais, puis aller au travail. En fait, se déplacer avec ses jambes, c'est le meilleur moyen de ne pas consommer du gaz. Puis c'est le meilleur moyen de s'entraîner aussi. Donc, lier l'utile à l'agréable, ça fait toujours plaisir, quoi.
Ah, j'adore ça. Ouais.
Ben oui, c'est intéressant. Ça peut être des histoires que...
C'est maintenant qu'on parle des cute. Ouais.
Ben oui.
Vas-y. Non, mais l'idée des cute, le groupe de coureurs, donc c'est les coureurs utilitaires transpirant l'espresso, c'est aussi parti de ce concept-là, de se dire, on s'en va au travail en courant, on est tous des amis, bah, on va se lever une demi-heure plus tôt, on va partir, on va boire un café, puis après on va aller à la job, à la course. Puis on se rend compte que ça fédère beaucoup de monde. C'est parti d'une idée un peu comme ça, en l'air de trois jeunes papas à Montréal. Moi, je me suis greffé à cette équipe-là à l'époque. Et puis, j'étais pas papa à cette époque-là. Et puis, bah, tranquillement, pas vite, le concept est parti de Montréal. Quand j'ai déménagé à Québec, j'ai ramené ça dans un groupe de coureurs qui était déjà existant. Le groupe a pris de l'ampleur. En fait, ça a fait parler de la course utilitaire. Et maintenant, il y en a plein qui est le commute running en anglais est devenu la course utilitaire, puis ça s'est vraiment répandu. Et beaucoup de gens pratiquent ça et ils limitent leur impact sans vraiment le savoir. Mm-hmm. Et je trouve ça fantastique. Moi, j'adore ça. C'est ma passion.
Ben oui, puis en même temps, c'est une belle façon de s'entraîner aussi, de cumuler du volume, puis d'avoir un fond pour courir. Là. Donc, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. C'est vraiment une super...
On avait eu un épisode de balado avec Pat Godin, qui était le président d'honneur il y a trois ans, qui lui, en fait, s'entraînait que comme ça, en allant, il courait pour aller au tournage et il revenait. Puis tout son entraînement avait été que du commute, en fait. Il courait des ultras, hein. c'était des longues courses, donc c'est vraiment intéressant.
Mais c'est impressionnant. Jeff Cochon, qui est un des meilleurs coureurs au Québec, il fait des fois 35 km de course utilitaire le matin. Il se lève à 5 heures, il s'en vient faire une cute dans le centre-ville de Québec, il fait son tour, il rentre chez eux, ça lui fait 35 km. Enfin, c'est sûr que tout le monde n'a pas les jambes puis l'endurance de Jean-François, mais lui, il se fait du millage en malade avec ça parce qu'il a une job à côté. Il est ingénieur, il travaille 9 à 5 tous les jours. S'il ne pouvait pas faire ça, je suppose, je parle pour lui, mais je suppose qu'il ne pourrait pas faire autant de kilomètres, faire un 200 kilomètres semaine quand on fait un 9 à 5. Si on n'a pas cette pratique-là, ça devient extrêmement difficile.
Oui, exact. Puis quand on parle du comportement des coureurs, donc c'est vrai que moi, au départ, je pensais plus mon impact sur mon milieu naturel, donc dans Charlevoix pendant que je cours. Mais quel comportement pourrait avoir un mauvais impact? Qu'est-ce qui pourrait abîmer un peu l'environnement autour de moi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en fait, pour ceux qui sont un peu plus novices? Est-ce que l'utilisation de bâtons, ça peut être problématique? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je sais qu'il faut faire attention dans les dépassements? Est-ce que vous pouvez nous en... Marlène ou Thomas, je ne sais pas.
Il y a des courses, par exemple, sur l'île de la Réunion, alors c'est pas la seule raison de ce que j'ai cru comprendre, mais sur la Diagonale des Fous, sur le Grand Raid, les bâtons sont interdits pour notamment la protection, parce que les sentiers sont très étroits, donc pour éviter de dégrader l'espace qui est en dehors du sentier aménagé, les bâtons sont interdits, mais il y a aussi des raisons de sécurité. Je pense que quand on fait des dépassements, en fait, on occupe plus de volume dans la trail quand on a des bâtons que quand on n'en a pas, et donc pour des raisons de préservation de l'environnement, des sentiers, et pour des raisons de sécurité. Je pense que les deux facteurs se valent. Les bâtons sont interdits. Je ne sais pas si ça se pratique dans d'autres événements, mais en tout cas, c'est une des initiatives que j'ai entendu parler.
Mm-hmm. Ah, c'est super. Ben, c'est sûr que de traîner avec soi ses déchets, évidemment, c'est la base, là. Mais il y a aussi des événements qu'on voit ailleurs dans le monde. Nous, on n'est pas rendus là, mais ils obligent les gens à traîner leur défection, parce que c'est le bon terme, le bon mot. Parce qu'évidemment, sur une course de 125 km ou 65-80, il vient un moment où est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes. Hein? Puis, il n'y a pas toujours une toilette à disposition dans le fond de la forêt. Donc ça, c'est un enjeu aussi là de protection de la nature. Comment on peut faire ses besoins en nature de façon respectueuse de l'environnement? Puis il y a des courses là, comme je pense au Japon, là, ils obligent carrément les gens à traîner leur petit caca dans un sac jusqu'à l'arrivée. Bon, nous on fera pas ça à Ricana cette année, mais c'est des choses qu'on observe ailleurs dans le monde, puis on se questionne. Hein, ben, c'est intéressant de voir que ça se fait, que ça existe. Et là, nous, on est en train de se demander, ben, comment on peut aider les coureurs à mieux faire ça, là, à faire leurs besoins en nature de façon plus écologique et responsable. Je sais pas si tu as des conseils à nous donner, Karel. C'est peut-être juste dans l'ultra trail qu'on voit ça, là. Fait que...
Ben, en fait, non, parce que j'ai été confrontée à cet élément-là cet hiver en allant à une course, justement, qui avait lieu sur le lac Saint-Jean. Justement, comment est-ce qu'on gère autant, oui, les numéros 2, mais les numéros 1, parce que j'ai eu une discussion avec Danielle Landry, qui est experte instructrice Centras, donc le Centras Canada, qui est ces 7 principes, justement, autant pour la course, mais autant pour les randonnées en sentier. Et il y a beaucoup de discussions d'experts autour, justement, des rejets humains, parce que on peut croire que c'est naturel, mais nos rejets humains, autant numéro 1, numéro 2, ils contiennent des contaminants. Donc, tout ce que notre corps ne veut pas avoir, on les excrète de cette manière-là, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a certaines pratiques, effectivement, effectivement, qui peuvent être moins nocives pour l'environnement. Donc, il y en a qui disent de creuser un trou, d'enterrer le numéro 2. Donc, qui disent justement de le ramener, de le jeter aux déchets en tant que tel. Mais il y a aussi des pratiques qui vont devenir un petit peu la norme pour les pipis, parce que eux, c'est un des excréments humains qui contient le plus de contaminants. Donc, on veut pas nécessairement mettre ça dans la nature, bien que ça ait l'air inoffensif de le faire. Donc, il y a peut-être une manière de les ramasser d'une certaine manière, d'avoir un sac, etc. Mais je suis consciente que ça fait un poids supplémentaire dans le sac à dos, là, si on fait une course de plusieurs kilomètres. Donc, j'ai pas nécessairement de bonnes pratiques là-dessus, parce que j'ai pas été trop confrontée à ça dans mes accompagnements, mais de suivre l'épisode précis sans trace, en fait, peut-être que dans les prochains mois, prochaines semaines, il va y avoir plus d'indications au niveau, justement, des numéros 1.
C'est ça, parce qu'il y a les numéros 1 et 2, mais il y a aussi le papier qui vient avec. Oui. Puis qui est un déchet lui aussi. Nous, par exemple, dans nos autres événements, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Ultra Trail Arikana, mais maintenant on organise d'autres événements, dont le Trans Charlevoix, qui est une course à étapes linéaires, qui a lieu aussi dans Charlevoix, où là le camp suit les athlètes tout au long de la progression sur leur territoire. Fait que de jour en jour, on monte et on démonte le camp des athlètes. Et l'année dernière, les coureurs recevaient un petit sac réutilisable en tissu avec une fermeture éclair qui leur permet de mettre leurs déchets dedans. Déchets okay. de toutes sortes là. Ça fait partie des choses qu'on va commencer à promouvoir aussi dans nos autres événements. Là, on l'a fait pour la Trans Charlevoix l'année dernière, mais on pense que ça peut être intéressant, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que les gens, ça, tu sais, ils savent pas où mettre leurs déchets dans leur sac, c'est sale ou ça coule. Par exemple, un gel qu'on va manger, un gel tout sucré va dégoûter, va couler, va salir tous nos vêtements. Donc, d'avoir un petit sac réutilisable lavable pour mettre nos déchets à l'intérieur pour les traîner jusqu'à l'arrivée, on pense que ça peut être une solution là pour
les croire. C'est une excellente idée. Ouais.
Puis souvent de ramasser aussi les déchets qu'on voit sur la trail. Ouais. Quand j'ai fait le marathon des sables il y a quelques années maintenant, je l'avais pas fait en mode performance, mais j'avais réservé une poche sur mon sac pour ramasser les déchets qu'on croisait, parce que c'est pas forcément un acte volontaire de prendre son gel puis le mettre sur la trail. Des fois, ça juste qu'on court vite, là, on met les bâtons, on met un paquet d'affaires, on sort une veste, puis il y a 2-3 déchets qui sortent en même temps. Fait que le premier, il va pas ramasser, ou la première va pas ramasser de déchets parce qu'il est en tête de course. Mais ceux qui sont en arrière, puis qui ont peut-être un peu plus cette sensibilité-là, ou qui veulent pas non plus, on s'entend que sur un 125, quand on met je sais pas combien d'heures, perdre 3 secondes pour se pencher, ramasser un déchet, puis le mettre dans une petite poche, je pense que ça influence pas trop le résultat à la fin. Donc d'avoir cette démarche-là, de ramasser ce qu'on croise sur les déchets, puis c'est peut-être un randonneur qui va l'avoir déposé, puis même si c'est pas un coureur, c'est pas grave, ça vaut toujours la peine de le ramasser. Je pense que c'est une bonne pratique qu'on peut avoir et qu'on peut conscientiser, puis ça a des impacts positifs sur tout le monde.
Mais effectivement, en fournissant le petit sac, ça va encore plus conscientiser les personnes à le faire. Puis là, on a beaucoup parlé, de réduction des déchets, comment réduire l'empreinte écologique, tout le volet sensibilisation. Puis il y a un volet un peu plus, je ne sais pas comment on l'appellerait, un peu plus social en fait, peut-être aussi, où ben, justement le troc, ça en fait partie, je pense, mais ça fait partie aussi de votre charte aussi, d'arriver à être un peu plus inclusif, près, d'arriver à faire participer, je pense notamment avec Motivaction, faire participer un peu plus, rendre votre course plus inclusive en fait.
Oui, effectivement, tu as raison. Ben, il y a différents angles par rapport au thème social, là. Mais tu as raison de rendre nos événements plus inclusifs à la diversité culturelle ou de genre ou de capacité physique aussi. Je donne l'exemple de l'échappée de l'île aux coudes, qui est la course qu'on a reprise cette année, qu'on organise pour la première fois en 2023. C'était une course sur route avant. Et on y ajoute un volet trail cette année en 2023. Ça va avoir lieu le 17-18 juin. Ça va être vraiment le fun en passant. Mais on s'est fait approcher par une organisation qui s'appelle Trax Mobilité, que Thomas connaît très bien. Puis cette organisation-là construit des chaises roulantes tout terrain pour aller en nature. Et ils nous ont approchés pour organiser une course pour personnes en chaise roulante dans le cadre de notre événement. Évidemment, on était super emballés par l'idée. Ça serait la première fois qu'une course en sentier accueille des gens en chaise roulante. Donc, on trouve ça super génial. Donc, on essaie de voir comment on peut, de différentes façons, rendre nos courses plus inclusives. Pour l'échappée des locaux, cette année, on accueille les personnes à mobilité réduite dans le cadre de notre événement, mais on est en train de réfléchir aussi en ce moment à une politique de genre, comment on va inclure les personnes de diversité de genre. Là. Donc, on est en train de travailler sur une politique non-binaire, notamment, pour voir comment on va traiter les résultats de ces nouvelles catégories-là, comment on va les mettre en valeur, qu'est-ce qu'on va leur offrir par rapport aux autres catégories traditionnelles hommes-femmes. Donc ça fait partie de la réflexion qu'on a en ce moment, qui est très d'actualité dans plein d'événements aussi, là, on va se le dire. Mais il y a aussi toute la question de comment on met en valeur les produits locaux et régionaux, puis comment on essaie de favoriser la participation de la communauté locale dans notre événement. Donc, nous autres, ce qu'on veut surtout pas, c'est arriver dans un endroit, puis arriver avec nos gros sabots, organiser un événement, puis retourner chez nous, là. Donc, on essaie vraiment de voir comment on peut impliquer un maximum d'acteurs dans l'organisation de l'événement puis sa réalisation. Donc, le plus possible, on offre des produits locaux, on a des partenaires régionaux du début à la fin, là. Fait que, par exemple, là, à Les Locaux, il y a un gros travail qui est fait en ce moment par David, notre coordonnateur, qui a contacté par téléphone tout ce qui bouge ou presque à l'Hello Kid pour leur dire que l'événement a lieu, qu'on veut les impliquer, qu'on est intéressé à collaborer avec eux. Nos parcours trail traversent une cinquantaine ou une soixantaine de terrains privés, donc toutes ces personnes-là doivent être contactées et on le fait individuellement par téléphone. Et les gens sentent, en fait, ils sont super contents qu'on les appelle puis qu'on les contacte, puis ils ont envie de s'impliquer avec nous, puis ils sont contents de nous recevoir là, parce qu'on prend la peine de les appeler. Fait que, puis par exemple, pour l'échappée des locaux aussi, tantôt on parlait des médailles, on se questionnait beaucoup, qu'est-ce qu'on fait avec la médaille à l'échappée des locaux. C'était une course sur route. Je pense que les gens en course sur route sont encore plus attachés à leur médaille peut-être qu'en trail, donc on avait vraiment un fort questionnement par rapport à ça. Puis on a décidé cette année d'offrir la possibilité de l'échanger, de choisir entre une médaille ou un produit local. Donc les gens vont pouvoir choisir soit une médaille ou un pot de beurre de pomme fait par la cidrerie Verger Penneau à l'Île aux Coudes. Donc ils ont le choix entre les deux ou rien aussi. En fait, dans l'idéal, les gens prendraient rien, mais là ils ont le choix de prendre un produit local puis de pouvoir déguster ça. Donc ça, on trouve ça vraiment sympathique. On a hâte de voir à quel point les gens vont embarquer dans l'initiative.
Il y a quelque chose que je ne sais pas si c'est un impact social, mais je trouve ça intéressant. Vu que l'événement est juste sur une fin de semaine, une longue fin de semaine, tu le disais, Marlène, 3 jours, mais c'est, je sais que la clinique du coureur laisse baliser ses sentiers à l'année. Ben, ça fait vivre les endroits, ne pas juste arriver avec un événement pendant 2-3 jours, puis s'en aller. Parce que pour la communauté locale, qui a envie de continuer de courir le restant de l'année dans les sentiers, ben, le fait de pouvoir peut-être baliser à l'année longue, de garder, d'entretenir ces sentiers-là toute l'année pour que les gens sur place puissent courir. Ici, les sentiers, puis j'y monte derrière parce que c'est littéralement en arrière de chez nous, les sentiers de la clinique du coureur sont balisés à l'année. Fait que moi, quand je vais m'entraîner, ben, en fait, je m'en vais dans les sentiers. Puis que ce soit en janvier avec plein de neige ou... alors, pas en ce moment parce qu'il faut laisser la nature reprendre son droit, puis d'ailleurs on peut peut-être en parler, mais de justement dès que à partir du mois de juin on va pouvoir aller courir là-dedans, et puis toute la communauté trail peut en profiter, peu importe que ce soit pendant l'événement ou pas d'ailleurs.
Ben oui, c'est super. Ben t'as raison, ça favorise le tourisme durable à l'année aussi, là, dans le sens parce que ça amène des gens dans la région pour courir, découvrir les sentiers. Nous autres aussi, on fait ça avec l'UTHC, là, nos parcours de courte distance, pas les longues distances, mais les courtes distances sont balisés tout l'été. Puis ça permet aux gens qui sont soit pas disponibles pour l'événement de pouvoir venir quand même tester les parcours ou de se pratiquer en prévision de l'événement. Donc c'est super sympathique. Puis je pense qu'il y a plusieurs événements maintenant qui font ça aussi. Puis je trouve que c'est vraiment une super belle initiative, là.
Oui, vraiment. Puis peut-être pour terminer, tu nous as parlé, Marlène, un peu de vos projets que vous aviez, des choses que vous souhaitiez mettre en place peut-être un petit peu plus tard. Puis de toute façon, on sent que c'est un travail aussi sur le long terme. Karel, toi, quand tu écoutes Marlène et puis Thomas qui présentent tout ce qui a été fait, est-ce que c'est quoi ton regard en fait sur l'événement? Puis est-ce que tu aurais des conseils à leur donner?
C'est une très bonne question. C'est tellement dur de juger un événement sans y participer, sans y aller sur place en tant que tel. Moi, je trouve que vous faites vraiment beaucoup de bonnes initiatives et au-delà de beaucoup d'événements que j'ai déjà rencontrés ou que j'ai déjà vus. Donc, je vous dirais de continuer dans cette voie-là, de continuer de vous informer aussi de qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tu en as parlé un petit peu, Marlène, là, par rapport à l'international. Donc, des fois, en Europe, justement, sont un petit peu plus avancés que nous en termes de tourisme durable et éco-responsabilité, mais je trouve que vous êtes dans une excellente voie, puis vous faites beaucoup d'efforts, puis je vous sens motivée. Et justement, les gens motivés comme ça, ça peut aller très, très loin. Donc, continuez comme ça. Puis, je suis sûre que j'aimerais ça pouvoir avoir la chance de venir sur un de vos événements, mais j'ai pas la capacité physique de le faire. Mais peut-être que je viendrai jeter un coup d'œil juste parce que Charlevoix, c'est tellement beau aussi, là. Donc, félicitations pour tous vos efforts.
Ben oui, ben en fait, mais c'est super gentil, merci Karel. En fait, moi, je peux rebondir là-dessus. Je pense que là où est-ce que nous, on peut continuer à s'améliorer, là, où est-ce que le gros travail qu'on a encore à faire, c'est d'être capable de mieux mesurer nos mesures environnementales, mieux mesurer on en a parlé tout à l'heure, la production de gaz à effet de serre qu'on génère dans le cadre de nos événements, d'être capable de bien mesurer le poids de nos déchets, puis de voir comment on s'améliore d'année en année, mais de façon un peu plus factuelle, concrète, là, oui. Avec chiffrée, là, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'étape là, à laquelle il faut qu'on en arrive. Mais on fait beaucoup de choses, mais on prend beaucoup d'initiatives, on essaie des choses. Là où je pense qu'on a encore des efforts à mettre, c'est dans la mesure. Le mesurage de ce qu'on fait, puis l'évaluation de ce qu'on fait, puis je pense que c'est avec des organisations comme la vôtre aussi qu'on peut continuer à s'améliorer puis à faire ça.
C'est ce que j'allais dire, on peut vous aider là-dedans. C'est ça.
On a un match.
Oui, c'est ça.
On va vous laisser discuter après l'entrevue, alors ensemble peut-être. Bon, mais merci en tout cas à tous les trois, c'était vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a eu des super idées, des super conseils, puis je pense que les coureurs vont être intéressés aussi. Il y a peut-être des choses dont ils ne se rendaient pas compte, puis ça va allumer des idées pour tout le monde.
Ouais. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des partages entre organisations, Marlène, avec... j'ai parlé là juste avant du trail de la clinique du coureur avec Blaise, mais avec Jeff Tapp, avec le Bromont Ultra, avec Jean Fortier du QMT. Est-ce que vous discutez sur les bonnes pratiques en termes de réduction des gaz à effet de serre ou tous les sujets qu'on vient d'évoquer?
Bien, là où il y a eu des échanges, c'est dans le cadre, par exemple, des formations ou des colloques de la Fédération québécoise d'athlétisme. Dans le passé, je me souviens, avant la pandémie, en 2020, en mars 2020, juste avant la pandémie, là, il y avait eu une présentation pour les événements sportifs. Sur le thème du développement durable. Donc là, il y avait eu des échanges, puis mais sinon, il y a pas de réseau informel où là on va discuter de ça spécifiquement. Par contre, je pense qu'on s'observe tous les uns les autres, puis on s'inspire tous les uns les autres, mais c'est pas un sujet là qui a fait l'objet de réunions spécifiques entre organisations, mais ça serait effectivement super pertinent, là.
Mais si je peux me permettre, en fait, il existe un événement qui focalise justement sur les événements sportifs. Donc, ça a lieu le 24 mai prochain à Montréal. C'est les rencontres éco-sportives et ça regroupe vraiment toutes les organisations sportives. Donc, là-dedans, on a des discussions, on a du réseautage entre événements sportifs pour montrer les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Puis, il y a maintenant le réseau éco-sportif, en fait, qui est un OBNL formé justement pour mettre en place des mesures éco-responsables dans les événements sportifs. Donc, ce ne sont pas nécessairement juste des événements de trail, de course en sentier, mais tout autre événement, des triathlons, cyclistes, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les informations, là, mais ça s'appelle le réseau éco-sportif. Donc, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn et Facebook. Et c'est nouveau, là, c'est depuis décembre que ça existe, là, mais on va officialiser plus ça lors des rencontres éco-sportives en mai.
Super.
Ah,
très intéressant. Intéressant. Super. Bon, je vais... est-ce que je conclue?
on te laisse pas conclure.
Mais non, mais moi, je pourrais parler pendant longtemps, mais à un moment, il faut conclure, c'est ça. Ça va prendre peut-être un autre épisode pour la suite, mais merci à vous trois. Karel, si tu as la chance d'aller dans Charlevoix peut-être au mois de septembre, et puis tu pourras aller voir toutes les mesures qui sont mises en œuvre en vrai. Et puis, écoutez, merci à vous trois, puis je vais vous souhaiter une très bonne journée, puis une bonne continuation à tout le monde. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci
beaucoup. Félicitations pour toutes les mesures. C'est comme ça que ça avance, en tout cas. Mais moi, en tant que coureur, c'est le fun de voir les organisations avancer.
Merci. Bye-bye à tout le monde.
Merci.
Bye.
Merci.
Bye, Karel. Salut.
Vous venez d'écouter Je suis Lou, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un avis et des étoiles sur votre appli de podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Lou est une production d'événements Arikana. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Ultra Trail Arikana du Canada sur le site web arikana.info. À bientôt !